C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de C23 de Pascal Forget et Alain McKenna. Ça, c'est nous deux, moi et Pascal. Salut Pascal.
Bonjour Alain, content de te revoir. T'as vu plein d'aventures.
Ben, pas tant que ça, mais on a vu des nouveaux téléphones. C'était un événement cette semaine, on va en parler plus tard dans l'émission, avec Google qui a présenté le Pixel 8. C'est drôle parce qu'il se présente comme la marque de téléphone la plus qui connaît la plus forte croissance au monde à l'heure actuelle.
C'est pas rien.
Je veux dire ceci parce qu'à l'époque, quand Kia et Hyundai sont apparus dans le marché automobile canadien, ils disaient que c'était les marques à la plus forte croissance parce que leur vente était passée de 40 à 140 dans une année.
C'est voilà, sûr, oui, mais
c'est facile de doubler des petits volumes.
C'est plus forte croissance, mais je pense sérieusement que Google, qui a annoncé les nouveaux téléphones Pixel, je pense que Pixel devient une marque connue.
Oui, ils font des belles choses.
Exactement.
Photos, les choses qu'ils offrent, effectivement, sont très originales. On en parlera tantôt, de toute façon.
C'est ça, c'est une offre claire qu'ils ont avec la marque Pixel. Ouais. Fait qu'après le huitième téléphone, maintenant, commence à faire que cette marque-là est connue et recherchée par les gens. On va saluer nos partenaires pour le podcast, TELUS, Plan Hub, Jura. Et si vous aimez le café, j'aurais dû m'en faire un autre avant le podcast. Le goût du café. Avec la Jura 8 entièrement automatique, c'est super facile. Tu appuies sur un bouton et tu as la boisson caféinée ou pas. La boisson avec du lait ou pas. Allongée ou pas. Simplement avec un seul bouton. On n'a pas besoin de mousser le lait séparément. Vraiment, vraiment facile. Le nettoyage est super simple avec des enzymes là, pour enlever tous les petits dépôts de lait qui pourraient se trouver dans le dispositif pour mousser le lait. Ça nettoie le tartre avec une petite pastille. Ça nous guide à l'écran. Super facile de choisir sa boisson préférée. Puis il y a même une petite chute à l'arrière, on le rappelle pas assez souvent, qui permet de mettre du café moulu, si on veut, son déca de l'après-midi, par exemple. Allez voir la salle de montre chez Edica, sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Vous allez vous régaler et voir tous les modèles de machines de Jura.
Excellent. J'ai besoin de café ce matin, je manque un peu d'énergie, je me rends compte que c'est une longue semaine, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a eu une petite affaire, on va en parler, on va revenir plus tard, parce qu'on n'a pas vraiment fait l'essai détaillé de la Apple Watch, hein, la série 9, la nouvelle Apple Watch, parce qu'il manquait des morceaux. Cette semaine, ils ont activé le double tap là, qui permet de... C'est comme peser sur Enter, entre guillemets, pour la montre, mais avec ses deux doigts, plutôt que d'y aller avec un doigt sur l'écran. Ça vient d'être mis dans la version bêta du logiciel de la montre, ça vient d'être offert au public il y a deux jours. Donc, on va pouvoir enfin parler de la version, somme toute, complète de la montre dans les prochaines semaines.
Très
il y a d'autres mises à jour qui s'en viennent aussi. Hein? On a parlé l'autre jour Microsoft avec Windows 11. Il y a quelque chose de costaud qui s'en vient.
Ben écoute, moi je trouve très très drôle, c'est qu'il y a le jeu de surf pendant qu'on fait la mise à jour de Windows, pendant qu'on installe une nouvelle version de Windows substantielle. Des fois, ça prend quelques minutes. C'est assez rapide. Ça dépend ce qui se passe exactement. Mais des fois, il y a des mises à jour plus grosses que d'autres. On fait intégrer l'intelligence artificielle Bing là-dedans. Mm-hmm. Mais on peut jouer à un jeu de surf pendant qu'on fait sa mise à jour. Et c'est très drôle. C'est un jeu complètement simple. C'est on se déplace avec sa flèche gauche ou droite et on évite des obstacles. Mais si vous ne connaissez pas ce jeu-là, allez sur le navigateur Edge et tapez Edge, 2.:// surf. C'est un petit jeu qui est caché. Même si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez aller sur ce petit jeu-là. C'est un petit Easter egg qui est là. Voilà. Des petites micro-nouvelles avant de commencer le gros de
le gros. Ben, commençons le gros, Pascal, et passons aux actualités. Rappelons tout d'abord que si ça vous tente d'entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café ou après avoir réécouté une tasse de tech, parce que nous aussi, nous sommes une balado, l'essentiel des nouvelles donc à connaître pour commencer la journée, vous pouvez le faire en consultant le balado Info Bref matin en 5 minutes. C'est un résumé des événements de la journée dans l'actualité. Vous pouvez essayer ça. Ça se trouve sur l'application balado de votre choix. Trouvez Info Bref, ça marche. Trouvez une tasse de tech, abonnez-vous. Quoique si vous nous écoutez, vous êtes déjà abonné, mais on sait jamais, de la vidéo à la balado, des fois, c'est une petite étape qui ne demande pas grand-chose. On a eu des belles rencontres, on a eu un beau rayonnement dans une sphère du monde québécois qu'on voit peu souvent dans les dernières semaines, parce que la semaine dernière, on était à All In, l'événement d'intelligence artificielle, et on a rencontré les gens du Conseil d'innovation du Québec qui ont repartagé l'entrevue, qui était le fun, qui était un peu longue, là, on a fait 25 minutes.
C'est bon, Alain.
Ça vaut la peine de retourner écouter ça parce que c'est un peu au niveau là, c'est pas mais quand même il y a des belles conversations sur pourquoi couche-tard, Bombardier, Hydro-Québec ne sont pas aussi, assez présentes dans le monde de l'innovation. C'était mon commentaire éditorial du jour. Parlant d'intelligence artificielle, c'est ça, on en parlait, hein, Windows 11 va avoir beaucoup de nouveautés, mais déjà, Microsoft, très audacieux, je sais pas c'est quoi le bon terme, pour intégrer tous les éléments de GPT et de OpenAI dans ses outils, dont DALL-E là, qui rentre dans Bing Chat.
Ouais, DALL-E 3 qui va être intégré dans le chat de Bing. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir clavarder, dire « Hey, j'aurais besoin d'une image pour illustrer quelque chose. » Et écoute, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 6 mois. Là. On parle de DALL-E 3. Elle est vraiment performante. On l'a mentionné la semaine dernière.
C'est exponentiel, les mises à jour. Hein, c'est pas juste des petits des graduels. C'est vraiment quand c'est une amélioration, c'est des années-lumière.
C'est vraiment, vraiment remarquable. Moi, j'ai demandé pour m'amuser, créer une photo de personne enthousiaste, chauve, qui enlace un panda. Et ça m'a créé 4 belles images. Écoute, photoréaliste, là, on s'entend, là, c'est, je regardais, puis je me disais, OK, il y avait une personne qui avait un bras un peu bizarre, mais c'était impeccable. J'ai demandé, créer image d'une girafe qui tient un panneau en bois avec une tasse de tech écrit dessus. Encore une fois, c'est pas parfait, mais la girafe tient un panneau, il est marqué tech cup dessus. Il y a sûrement des petits réglages qu'il faut que j'indique ou des guillemets qui manquent
en français,
à quelque part.
Ben oui.
Mais ça va s'intégrer dans Bing et je pense que quand les gens vont commencer à apprendre à s'en servir, c'est comme la recherche. Mm-hmm. Avant, on cherchait dans Google, puis on tapait ce qu'on voulait, puis ceux qui étaient meilleurs à trouver les bons mots-clés. Mais ouais. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir poser des questions et obtenir des réponses et des images et des dessins et se servir de ça sans avoir besoin. Ça, c'est un peu terrifiant, de photographes, sans avoir besoin de d'artistes, sans avoir besoin de...
Mm-hmm. Ouais, ça soulève des questions, effectivement. Si on veut de l'authenticité, il va falloir aller ailleurs, peut-être.
Mm-hmm. Voilà. Alors, cherchez qu'est-ce qui se passe si vous avez le chat de Bing dans votre navigateur Edge. Et je peux me permettre, j'utilise le navigateur Edge de plus en plus. Chrome était mon défaut pendant des années. Mm-hmm. Mais pour faire changement, essayez Edge. Vous allez voir, c'est basé sur le même moteur. On peut avoir un profil pour son travail, un profil pour la maison. Pour ceux qui travaillent de la maison, c'est bien pratique. Et vous avez accès à la recherche de Bing dans le coin qui vous donne des réponses complètes au lieu de fouiller dans plein de sites web.
Il y a aussi Bing coupons dans Edge qui vous permettent d'obtenir automatiquement les coupons spéciaux quand vous achetez sur des sites web, des articles qui souvent sont en liquidation, mais on le sait juste pas.
Oui, il y a des petits pop-up qui apparaissent là, qui disent « Ah, cet article-là est moins cher. » Comme « Ah, ben gardons, je magasine pas tant que ça en ligne. » Mais quand je l'ai vu apparaître, j'ai été agréablement surpris.
Il s'est passé quelque chose. J'ai fait un article la semaine dernière là-dessus dans Le Devoir.
Oui, ça a fait beaucoup jaser.
Tu sais, on parlait beaucoup là de téléphone d'iPhone 14 l'année dernière et iPhone 15 cette année aussi, de la fonction d'appel par satellite, appel d'urgence. Puis on se dit, c'est bien le fun, mais à qui ça peut servir? Ben, ça a servi une fois au moins il y a quelques semaines dans le nord du Québec, un petit peu en haut de Baie-Comeau, en fait. Il y a un homme qui s'appelle Maxime Lajoie là-bas qui a utilisé et qui en a fait quand même toute une histoire parce que il s'est blessé assez sérieusement avec un accident de pelle mécanique et mal pris, les deux pieds sous sa pelle, c'est quand même pas rien, incapable de bouger, loin de toute forme de réseau cellulaire ou téléphonique ou d'électricité même, bref, dans le fond du bois. Il a été chanceux, il avait son téléphone dans ses poches parce qu'il était loin de son véhicule aussi. et il a réussi à appeler par l'appel SOS, la fonction d'urgence du iPhone, à contacter les urgences qui ont réussi à contacter des collègues à lui qui étaient un petit peu plus loin, pas tellement loin en fait de lui où il se trouvait, mais on était à 4h30 de Baie-Comeau, donc quand même loin dans le bois. Je l'ai appelé, j'ai fait un article, on a jasé un peu. Lui, évidemment, il s'en est sorti avec quelques blessures, mais semble-t-il que tout devrait être guéri éventuellement. Il y a deux fractures à un tibia, puis il y a deux fractures à l'autre pied. Il est présentement en béquille et en chaise roulante. On imagine effectivement que ça va prendre quelques temps à se régler. On cherchait l'angle techno parce qu'évidemment, la fonction cellulaire, on le sait, sur la fonction satellite, en fait, sur l'iPhone 14, elle apparaît quand on n'a pas de signal téléphonique. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle permet de communiquer à l'écrit avec une centrale locale là, d'urgence qui, elle, va dispatcher, va transmettre l'information à des services locaux d'urgence, ambulances, pompiers, ainsi de suite. Il était dans un endroit où il n'y avait pas une ligne directe sur un satellite, donc ça prenait quand même une à trois minutes par envoi de message. Donc, tu imagines l'espèce de petit stress que ça devait quand même...
Oui, mais c'est quand même fantastique que ça fonctionne.
Ultimement, ça fonctionne.
hyper rassurant de savoir que même au Québec, ça fonctionne avec une centrale locale.
Il faut en français et tout, exactement. On voit, il a partagé ses écrans de ses communications avec les services d'urgence. Effectivement, c'est une jeune dame qui, clairement, est très attentive, là, elle prend soin de bien rassurer et tout le kit. L'élément tête techno, c'est que, vous savez, les gouvernements dépensent des milliards pour essayer de brancher tout le monde à l'Internet haute vitesse partout dans les endroits plus reculés, puis c'est correct. Mais même si on n'a pas nécessairement besoin de réseau cellulaire, peut-être trouver une formule pour avoir une couverture d'urgence comme ça partout, ce serait pas mauvais non plus, parce que quand ça sauve des vies, ça a certaines valeurs, n'est-ce pas? Pas besoin d'avoir TikTok quand t'es dans le bois, dans le Grand Nord québécois. Mais avoir un service d'urgence, ça pourrait être une bonne idée. Donc, à suivre cette histoire-là, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, Apple va en faire beaucoup de marketing, mais de notre côté, ce qu'on peut dire, ce serait le fun que les fournisseurs ou les autres fabricants joignent les rangs d'une solution similaire qui deviendrait à ce moment-là universelle. Parce que clairement, ça a des bénéfices. Oui. On peut dire, pour faire une parenthèse, et je te laisse là-dessus ensuite, c'est que l'Apple Watch pourrait aussi avoir cette fonction-là dans sa connexion cellulaire éventuellement.
Oui. Oui, avoir des circuits comme ça. Je sais que le processeur Snapdragon 8 génération 2, si je ne m'abuse, a la capacité de se connecter à des réseaux cellulaires. Il faut que les opérateurs l'activent.
Oui, ça, c'est toujours ça, la partie difficile. C'est qu'il faut que tout le monde dans la chaîne participe. Et il y a des conversations là qui, des fois, n'aboutissent pas comme on souhaiterait, effectivement.
Ouais, il faut payer la centrale, il faut payer la connexion, il faut avoir des antennes, les fréquences, les bandes passantes et compagnie. C'est pas évident.
Il y a Là, j'allais dire avant l'événement Pixel, juste avant l'événement Pixel, Google a annoncé des nouveautés du côté du Chromebook, Pascal.
Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit, parce que je trouve que beaucoup de gens gagneraient à utiliser des Chromebooks. Beaucoup de gens qui utilisent pas souvent un laptop, il faut qu'il y ait plein de mises à jour à faire, c'est lent à démarrer, ça vieillit vite. Les Chromebooks, c'est des petits appareils faits par Google qui sont axés sur le web. On s'entend-tu que 95% de ce qu'on fait, c'est naviguer sur le web? Oui, on utilise encore des applications parfois. Oui, mais si je veux utiliser Photoshop, avec le Chromebook, on a maintenant créé, il y avait des appareils qui étaient très abordables, qui fonctionnaient pas super bien. On s'entend, la résolution était pas terrible, la qualité de l'écran, la qualité de la webcam était pas extraordinaire. On a maintenant créé une nouvelle catégorie de Chromebook qui s'appelle les Chromebook Plus, qui garantissent qu'ils sont au moins deux fois plus performants que les Chromebooks précédents. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir un bon processeur dedans. Il va avoir 8 gigaoctets de mémoire vive ou plus, 128 gigaoctets de stockage. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, 128 gigs. Les disques durs rapetissent.
Ben, pour un Chromebook,
c'est énorme, parce que tout est stocké dans les nuages. Vous avez inclus du stockage dans les nuages. C'est fait pour que vous ne stockiez que pas grand-chose dans votre disque dur. Un écran HD, je pense que c'est un minimum en 2023 pour
on est certainement rendu là.
Et une webcam 1080p. Donc, on va voir avec un Chromebook Plus, on a le petit branding Chromebook Plus. Et ces appareils-là seront pas très, très chers. Ils vont être à partir de 570 canadiens. Donc, je trouve que pour avoir une garantie de... Et n'oubliez pas que les Chromebooks, depuis quelques temps, ils sont mis à jour pendant 10 ans minimum.
Voilà. Ça, c'est un gros truc. Ils vont vieillir longtemps, là.
Ils vont pouvoir bien fonctionner longtemps. Si vous connaissez quelqu'un qui a des besoins informatiques modestes, qui passe surtout son temps sur Internet, et juste pour vous aider, là, quand je parlais de Photoshop pour mes photos, on va inclure Adobe Express et Photoshop sur le web pendant un certain temps. Je crois que c'est au moins pendant 3 mois qu'il va être inclus dans son ordinateur. Il va avoir toutes les fonctions Google, d'intelligence artificielle qui vont être offertes dedans.
Ensuite, Office aussi est disponible en version cloud, qui est tout à fait installable pour les gens qui veulent garder les vieux logiciels.
Totalement. Ben, la suite Microsoft 365, c'est tout accessible sur le web. On n'a même plus besoin d'installer quoi que ce soit. Voilà. Et ce qui est beau, c'est que si jamais ton ordinateur brise, ben, tu te reconnectes avec ton identifiant Google dans une nouvelle machine et dans quelques minutes. Et on parle vraiment de quelques minutes. Tout est à jour. Tout va réapparaître dans son ordinateur parce que c'est stocké dans les nuages. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que les Chromebooks compatibles vont être mis à jour. Et moi, j'ai mon Chromebook Framework, celui qu'on peut mettre à jour.
Oui.
Et je suis très content parce que cette semaine, je me suis dit, me paye un petit luxe. J'avais une journée triste. Je me suis acheté une barrette de mémoire de 8 gigaoctets pour passer de 8 à 16 gigaoctets dedans. 4 minutes.
Ça fait une différence, ça, quand même.
4 minutes, Joe. 5 vis, poup, on ouvre le capot. Le capot est magnétique dans le Chromebook Framework. C'est magique. Ça t'assure que tu le replaces. Tu peux pas le mettre mal. ton capot,
ah oui.
Tu revisses les quatre vis, tu mets la barrette de mémoire, écoute, c'est assez fantastique comme mise à jour. Et quatre minutes, c'est parce que j'ai été émerveillé.
Trois minutes d'Instagram, moi et ma barrette.
Wow, c'est bien barrette. Beau cette affaire-là. Fait que regardez ça, Chromebook Plus, il y a un ami qui me disait pour ma fille, j'aimerais savoir un laptop, c'est pour ses études, elle a besoin de la suite Office.
Mm-hmm.
Elle peut le faire avec un Chromebook Plus sans problème. Puis évidemment, c'est à partir de 570. Acer et Asus vont avoir des Chromebooks Plus au Canada en ce moment, mais ça va venir dans d'autres marques. HP, entre autres, en a. Plusieurs manufacturiers vont en offrir. Chromebook Plus, je te coule là-dessus si vous cherchez la top 5.
Bonne idée, parce que la marque Chromebook a vu que c'était des ordinateurs à prix modique. Il y avait peut-être ce bagage-là, cette impression que
c'était pas terrible.
Et il y a eu des Chromebooks de qualité assez médiocre aussi dans les dernières années.
C'est ça, c'est ça. Puis il y en avait des bons, mais ils étaient chers. À ce moment-là, tu peux t'acheter un laptop Windows ou même, non, pas encore. C'est moins cher encore que le moins cher des MacBooks.
Ah oui, certainement, mais un PC Dell ou HP avait des belles machines pas chères, effectivement.
Exactement.
Avec Windows. C'est l'automne, les amis, et avec l'automne arrivent les nouveautés un peu partout, dont dans le jeu vidéo. Et cette semaine, la grande nouveauté, c'était le lancement officiel, c'était hier, je pense, de Assassin's Creed Mirage, la plus récente version. Et là, selon vous, vous tenez par rapport aux mises à jour et au contenu téléchargeable, c'est genre le 11e ou le 23e titre de la série Assassin's Creed. Vous savez qu'on a évidemment à Montréal une petit lien émotionnel avec cette série-là, parce que ça a été initialement idée. C'est quoi, quand on était un idéateur, on idée, je sais pas c'est quoi le verbe. Ça a été pensé, c'était conçu à Montréal et encore aujourd'hui, c'est conçu, c'est grandement développé à Montréal, même si c'est rendu un projet maintenant mondial pour Ubisoft. D'ailleurs, c'est l'équipe de Bordeaux qui dirige maintenant la destinée d'Assassin's Creed et de son maître assassin, quel qu'il soit. On a une version donc qui a été lancée cette semaine, qui est assez particulière. Elle se passe dans le Bagdad des années 1800. Pardon, je recommence. Elle se passe dans le Bagdad des années 861-867 environ. Qui était une période de turbulence politico-économique à l'époque en Irak et dans le Moyen-Orient. Et c'est fascinant parce qu'on a recréé, et c'est la partie de ce jeu-là qui m'intéresse. Évidemment, le jeu comme tel, bon jeu. Le personnage principal a un backstory assez le fun. C'était un personnage relativement secondaire dans Assassin's Creed Valhalla qui a été repris et qu'on a étoffé. Et ce qu'on m'a dit chez Ubisoft cette semaine, c'est que ce qu'on voulait initialement, c'est de faire un contenu téléchargeable pour Valhalla. Et en quelques jours à peine, on a vu qu'il y avait possibilité d'aller vraiment plus loin dans l'histoire. Et là, on a créé un jeu à part entière plutôt que juste une petite extension du jeu précédent. Donc, c'est quand même le fun de voir que ça il y a encore un peu de créativité de ce côté-là. Et le personnage en question, donc, est un jeune tyran truand. Bon, pas un tyran, un truand des rues de Bagdad qui éventuellement évolue et devient un maître assassin tout le kit. Mais on a recréé un environnement qui est très fidèle à la ville de l'époque. On a engagé des historiens pour s'assurer que tout était vrai. On a creusé dans des vieux manuscrits, dans le fond des bibliothèques poussiéreuses d'Europe, l'arabe là, le plus rude possible pour découvrir comment les gens vivaient. Parce que c'est ça, c'est qu'on connaît les histoires, n'est-ce pas, mais très haut niveau hein, de ces époques-là, d'il y a 1200 ans. On connaît un peu les guerres politiques, les rois, les royaumes, tout ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils préservaient leur nourriture, comment ils s'habillaient, quel genre de chaussures ils portaient. Mmh. Et dans le cas de Bagdad, c'est une ville sur laquelle il existe très peu de documents visuels. Donc, les historiens sont vraiment arrachés les cheveux et cassés la tête pour découvrir des choses. Il y a deux éléments qui m'ont fait rigoler. Dans la bande-annonce, avant le lancement du jeu, ils présentaient une vue de Bagdad où tu voyais un commerçant qui avait des poissons sur un bac de glace. Et là, l'Internet, c'est mis à feu. Ben voyons donc, des glaciers, ça n'existait pas en 861. Vous êtes vraiment... Et au contraire, ils ont découvert qu'effectivement, en l'an 860 à Bagdad, qui est quand même pas un endroit où il y a de l'hiver très froid, ils avaient des moyens de préserver de la glace en ville. Donc, c'est quand même pas rien. Et faut se rappeler que, en tout cas, dans mon cas, nos grands-parents, les frigos, congélateurs, c'était pas un truc qui existait vraiment. C'était littéralement des blocs de glace qu'on gardait dans c'était quoi, du... Du brin de scie, il y a deux, trois affaires, ça faisait un mix.
Ouais, c'était empilé. On l'hiver, on coupait de la glace, on la mettait dans des caves, on mettait ça dans du brin de scie pour l'isoler.
Voilà.
Et puis on sortait les cubes de glace, on vendait ça. Puis c'est pour ça que les glacières au Québec, les frigos ont encore le bloc, le congélateur est en haut. C'était l'endroit où on mettait la glace, puis le froid descendait.
Voilà. Tu vois, on apprend des choses, c'est ça que je disais, d'important de s'amuser tout en apprenant.
Ouais,
en apprenant.
Ça peut stimuler des vocations d'historien ou intéresser les jeunes à l'histoire.
C'est assez élément qui est plus rigolo encore, c'est que parmi l'armement d'un militaire ou d'un guerrier irakien de l'époque, bagdadois, je ne sais pas exactement, existait le lance-flammes, imagine-toi donc, parce que ça, c'est un autre truc qu'on a vu dans une bande-annonce où là les internautes ont commencé à se « qu'est-ce que c'est ça ?» Et non. Il existait à l'époque quelque chose s'apparentant à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de lance-flamme qui témoigne d'un fait qu'on apprend très peu à l'école, mais le Moyen-Âge, là, qu'on appelle en anglais le Dark Ages, c'est vraiment comme un 600 ans dans le milieu du dernier millénaire où on a littéralement oublié tellement de choses que c'est le fun de voir qu'on a dans des circonstances aussi étonnantes que celui d'un jeu vidéo, l'occasion de les creuser pour ressortir cette information-là. Donc, si vous voulez... Si vous n'avez pas peur d'apprendre, c'est un jeu peut-être à considérer. Ça vient d'être mis en ligne maintenant. Il va y avoir une version pour iPhone 15 Pro, ça je l'ai déjà dit. Il va y avoir une version en réalité virtuelle de l'environnement d'Assassin's Creed qui aura des éléments de différents jeux, dont Mirage. Il va être offert sur le Quest 3 de Meta dans, je pense, le mois prochain. On vous en parlera si on a un Quest 3 pour pouvoir l'essayer, mais ça promet d'être intéressant.
On veut
parce que l'immersion devrait être assez spectaculaire.
Avis à Meta, nous voulons un Quest 3.
nous aimerions tester le jeu.
L'essayer, c'est l'adopter, je crois sincèrement, pour la réalité.
Et le Quest 3, là, effectivement, spectaculaire. Et les nouveautés qui ont été annoncées, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, mais avec Assassin's Creed aussi, ça devrait être pas mal intéressant. Bref, vous pouvez aller voir ça. Le temps que nous, on se retourne de bord et qu'on revienne dans une seconde, on va revenir sur l'événement Google cette semaine, Google Pixel, avant de parler de nos gadgets en troisième segment. Je l'ai ici, ça me fait penser que je vais vous en parler, le Sonos Move 2, le Move. Exactement, une belle enceinte sonore. Move. Et entre les deux, on vous parle de la marque de téléphone intelligent qui connaît la plus forte croissance au monde, selon Google. Restez là.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech. Nous sommes présentement en fin de canicule, donc on peut enfin relaxer un brin et parler de l'actualité de la semaine et la grosse nouveauté cette semaine. C'est drôle parce que ça m'a vraiment fait plus... je pense que ça a fait plus jaser que dans les années dernières. L'événement Google Pixel Made by Google qui a eu lieu cette semaine... J'allais dire à New York, parce que c'était là que ça se passait, mais c'était pré-diffusé, je sais pas comment dire ça. Il y a eu des conférences un peu partout la veille, pour les gens qui n'avaient pas l'occasion d'y aller. Juste avant ça, je vais juste vous parler de notre partenaire commercial. Vous savez, on en parle depuis quelques semaines, une bonne protection VPN, des fois, ça vaut plus que son pesant d'or, surtout qu'il y a... ce jour-ci, beaucoup de menaces en ligne, de hameçonnage, de campagnes pour essayer de vous soutirer de l'information. Il y a d'ailleurs des banques canadiennes qui payent le prix ce jour-ci. Donc, un bon service VPN peut vous protéger de plein de choses comme ça, parce que ça anonymise votre navigation web, ça sécurise, et ça vous permet aussi de déjouer certains blocages géographiques, ce qui est pratique quand on voyage. Et on a un partenaire chez Une Tasse de Tech, qui est CyberGhost VPN, qui offre, pour ceux qui ont besoin d'un VPN, une offre spéciale, ridiculement débarras à 82% de rabais. Je viens de faire du François Pérusse, pour ceux qui s'en rappellent. Et pour en profiter de cette offre mirobolante, vous pouvez aller sur le site de CyberGhost VPN à l'adresse cyberghostvpn.com/unetassedetech2023 et profiter du rabais et en même temps contribuer à financer notre balado, ce qui est jamais une mince tâche. Vous pouvez évidemment utiliser ce lien pour prolonger un abonnement déjà existant et donc bénéficier plus longtemps d'une protection quand vous êtes en ligne, qui est très importante. D'ailleurs, c'est une des nouveautés des nouveaux Pixel 8, un VPN intégré, parce que justement, on se rend compte que protéger la navigation web, c'est une bonne façon de se prémunir de plein d'affaires légitimes, de plein d'affaires illégitimes surtout, et d'un paquet de soucis ensuite sur le pistage que les nombreux trackers font sur Internet. Tracker. Donc, cette semaine avait lieu l'événement Made by Google, Pascal. Il y a eu trois grosses, essentiellement c'est trois nouveautés, deux nouveaux Pixel, Pixel 8, Pixel 8 Pro et une nouvelle montre, la Pixel Watch 2. La Pixel Watch 2, je vais en parler rapidement, c'est drôle parce qu'ils ont présenté les appareils à l'envers dans la conférence. Ils ont commencé par la Pixel Watch 2 qui m'apparaissait pas comme la plus grosse nouveauté dans les trois, mais qui est quand même une nette amélioration par rapport à la Pixel Watch de l'année dernière. On a renforcé le partenariat entre Google et Fitbit. Fitbit qui appartient à Google, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, mais ils continuent d'exister à part les produits Fitbit. D'ailleurs, il y a la Fitbit Charge 6, qui est plus un bracelet, qui a été lancé la semaine dernière. Donc, on essaie de faire un combo Fitbit ou Pixel Watch selon le genre d'acheteur que vous êtes. Dans ce cas-ci, on a beaucoup amélioré l'interface graphique, l'interface visuelle de la Pixel Watch pour l'apparenter à l'iconographie qu'on voit dans l'application Fitbit. Ça a l'air plus d'appartenir à la même famille. On a amélioré le design un peu, on a amélioré les matériaux. On dit que la montre est plus légère que sa prédécesseur. Les dimensions sont les mêmes, il n'y a pas une grosse différence visuellement. Les mêmes bracelets fonctionnent sur les deux montres parce qu'il y avait une espèce de connecteur un petit peu arqué là qui oui. permettait de cliquer les bracelets qui sont non standards, qui sont uniques à la Pixel Watch. Mais au moins, là, ils sont aussi compatibles sur la Pixel Watch 2. Il y a des nouveaux bracelets, il y a des matériaux recyclés là-dedans, donc on fait un petit peu attention. Mais surtout, il y a trois nouveaux senseurs, un nouveau processeur 4 à 4 cœurs qui est plus puissant et une autonomie de 24 heures par charge. Donc, les gens qui l'utilisent et qui veulent une bonne autonomie ont jusqu'à 24 heures, ce qui permet, il va falloir l'essayer pour être sûr, mais en théorie, c'est quand même moins stressant quand on veut l'utiliser dans la journée pour faire de l'activité physique et qu'on veut savoir comment notre sommeil a été. Je vais mettre un bémol là-dessus, c'est qu'une montre, quand on dort, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Moi, j'aime pas ça, j'en porte pas, ça se peut pas. Mais il y a des gens qui le font. Et comme la Pixel Watch est arrondie et relativement légère, ça se peut que ça serve aussi pour le suivi du sommeil de façon assez efficace. Il y a trois nouveaux capteurs. Il y a le moniteur de fréquence cardiaque qui est nettement amélioré. Au lieu d'avoir juste un petit capteur, on en a cinq. Donc, c'est quand même, pour la précision, pas rien. Il y a un capteur de température dermale. Donc, un capteur de température pour la peau. Ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent ont vu Pascal qui vient de perdre un morceau de cerveau par
la vie, mesdames et messieurs.
Il n'y a pas de capteur pour ça, mais il y a aussi, donc, sur la montre, un troisième capteur qui est un capteur électrodermal continu. Ça, je pense que ça calcule pour avoir le taux d'oxygène dans le sang. Il y a une question
c'est
de...
C'est pas la tension, c'est pas...
Tension, il y a plein d'affaires. Je suis un peu mêlé parce qu'on croise... On croise essentiellement les données de ces capteurs-là pour donner des calculs compliqués. Il y a évidemment l'application Fitbit. Il y a le logiciel qui est Wear OS 4, qui est le système d'exploitation de la montre, si on veut, et sur lequel on peut installer des applications tierces de tout genre, parce qu'il y en avait déjà quand même pas mal. Il y a, dit-on, plus d'intelligence artificielle intégrée dans la montre pour personnaliser les suggestions d'exercice à faire, l'activité, tout ça. C'est une montre qui va coûter j'ai oublié le prix canadien, mais c'est $349 américains. Je pense que c'est 400, pas loin, entre 450 et $500 canadiens de mémoire. Il y a 6 mois de Fitbit Premium d'inclus. Il y a une version Wi-Fi et une version LTE de la montre pour ceux qui veulent avoir une connexion permanente et qui sont abonnés au service Google, parce que ça va prendre, pour en profiter à mon avis, au moins minimum YouTube Music pour avoir la musique connectée sur son bracelet, sur sa montre, en fait, sans avoir de téléphone dans ses mains. Mais ça, c'est à vous de voir. Je sais pas à quel point les versions LTE des montres connectées sont populaires.
Il faut que notre fournisseur le propose. Il faut que notre opérateur le propose, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs au Canada. Vidéotron n'offre toujours pas de eSIM pour les
forfaits. On se rend compte qu'on a du retard. L'itinérance sur la montre aussi n'existe pas sur nulle part. Ce qui serait le fun, parce que quand on, même à l'étranger, quand on va aller courir, on va avoir la montre, pas le téléphone. Oui. Mon opinion, mais bref, il y a ça partout sur PC. Et les deux grosses nouveautés, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, qui sont la même version, en fait, qui sont deux versions du même téléphone. Il y a un qui a un écran de 6,2 pouces et l'autre de 6,7. Oui. Les deux ont un système Android 14 avant tout le monde, évidemment, qui est une belle mise à jour en passant du système Android. On a droit à un VPN intégré, j'en ai parlé tantôt, et on a aussi un nouveau processeur qui est la nouvelle version, la troisième génération du processeur Tensor de Google, qui s'appelle le Tensor G3, qui est une architecture ARM, mais qui vient avec 8 morceaux, toutes mises ensemble dans un seul package, qui inclut un processeur graphique, un processeur tout court, une affaire de intelligence artificielle, un élément de sécurité intégré, beaucoup de petits morceaux comme ça. Qui rendent l'appareil... Et là, c'est compliqué parce que Google ont lancé plein de chiffres comparés à plein de téléphones, mais c'était pas clair. Mais en gros, il est à peu près 2 fois plus performant qu'un Pixel 6. Donc, c'est une amélioration sur le 7 de X%, mais c'est quand même mieux que le Pixel 6. Et de toute façon, je vois pas qui va passer d'un téléphone Pixel 7 acheté l'année dernière à un Pixel 8 cette année. C'est la même question avec l'iPhone. On change pas de téléphone aux ans, on change de téléphone aux 4-5 ans. Et là, ça va vraiment faire une grosse différence sur le Pixel d'il y a 5 ans. Je vous dis ça en passant, je viens de voir Street View, la voiture vient de passer dans ma rue.
Oh, donc, très, très drôle. Et on parle de Google et ils te surveillent.
Ils apparaissent sur la rue. Oh non! Ça, c'est inquiétant.
les gens vont, je pense, être de plus en plus intéressés. Je pense qu'avec le Pixel 8, ça devient, comme tu le dis, là, la marque qui connaît la plus forte croissance. Ouais. Je comprends. C'est une offre claire. C'est des beaux téléphones. J'aime le design. J'aime la bosse pour les caméras.
Oui, ben on a revu le format un peu cette année. Il est un peu plus arrondi, le téléphone un peu plus compact, mais il y a toujours cette barre de caméra, effectivement, qui est une protubérance non négligeable à l'arrière.
Oui, mais j'aime ça. Sais-tu pourquoi? Parce que ça permet de tenir son téléphone sans que ça glisse.
C'est assumé, effectivement.
Et quand tu le poses sur une table, le téléphone est bien posé sans balloter. Alors que si tu as des blocs de caméra qui sont excentrés, qui sont pas au centre, ton téléphone va balloter si tu le mets sur une table. Puis en main, ça tient bien. Je pense que ceux qui vont se procurer le Pixel 8 Pro, l'option qui pour les geeks, l'option qui a la petite fonction vraiment chouette, une caméra supplémentaire, mais aussi le thermomètre. Et ça, je pense que ça va faire jaser.
Ça va probablement être l'élément qui va être le plus discuté parce qu'on peut, avec c'est un petit sensor, un petit capteur qui est à l'arrière dans la barre de caméra qui permet de prendre la température en surface d'un objet qui est à distance, comme on le ferait avec il y a des accessoires pour barbecue qui permettent de faire ça.
Oui.
Alors, on va pouvoir le faire avec le Pixel 8 Pro, effectivement. Juste parce qu'il y a ça, il y a d'autres nouveautés aussi sur le 8 Pro qui distinguent un peu plus. Il y a vraiment une différence entre le 8 et le 8 Pro. Là, on n'a plus juste une différence dans la taille de l'écran, mais la technologie d'écran aussi est différente. La caméra est vraiment meilleure sur le 8 Pro, on s'entend. Et il y a ce capteur de température-là qui est assez cocasse. C'est pour l'instant strictement ludique. D'ailleurs, quand on ouvre l'application de température, il nous a dit que ceci n'est pas aucune valeur scientifique parce que de toute façon, il faut le faire approuver par les autorités, la FDA aux États-Unis, et ce serait, j'imagine, Santé Canada au Canada pour que ce soit une application pour prendre sa propre température.
Ouais, officiellement. Et ça, si ça arrive... officiellement, mais ce que je comprends, c'est que déjà, c'était, je crois que ils ont dû avoir des retards parce que dans les vidéos promotionnelles, on voyait la personne prendre sa température. Tu peux prendre la température de ton petit pou qui fait dodo sans le réveiller avec ton téléphone et tu peux enregistrer ces données-là automatiquement dans ton application Fitbit. Voilà. Donc, je trouve ça très cool. Si jamais c'est approuvé, si jamais c'est officiel, ça va devenir quelque chose que tu pourrais transmettre à ton médecin. Mais en attendant, là, j'imagine que la précision doit être assez bonne. Pour avoir une bonne idée.
C'est un indicateur de au moins se prendre une idée de quelque chose. Il y a beaucoup de nouveautés dans les caméras des deux Pixel 8. On a revu les objectifs. Le Pixel 8 de base a un nouvel objectif grand angle. Le Pixel 8 Pro a des nouveaux objectifs mur à mur. On a un capteur 50 mégapixels. On fait Et là, j'ouvre les guillemets. On a un zoom de qualité optique 10x. Voyez comment on joue habilement sur les mots ici. Donc c'est pas exactement du 10x, mais c'est quand même avec le rehaussement logiciel de Google pas mauvais. Il y a beaucoup de nouveautés dans l'application caméra de Google sur les pixels. Il y a un mode pro de commande avec où on peut faire comme un appareil réflexe, contrôler l'ISO, le temps d'obturation, ces choses-là manuellement. Il y a des nouveautés qui s'en viennent aussi, qui vont venir plus tard là, en décembre. On parle d'une fonction qui s'appelle le Video Boost, qui, elle, va transférer vos vidéos sur les serveurs de Google pour améliorer la netteté, les couleurs, les contrastes, tout ça intelligemment dans une vidéo entière. Et on ajoute à la fonction vidéo le Magic Eraser qu'il y avait sur la photo depuis deux versions du Pixel, mais pour le son. C'est-à-dire que si vous prenez une vidéo dans la rue, il y a un bruit de fond, ça vous agace, vous voulez votre voix, vous appuyez sur le Audio Magic Eraser, ou ils vont franciser l'expression éventuellement, et vous allez voir certains éléments de bruit de fond qui vont être identifiés, qui vont vous demander si vous voulez les effacer. Et ça, j'ai trouvé ça assez habile. Je ne sais pas à quel point dans la vraie vie ça va être fonctionnel ou efficace, mais je trouve que c'est une belle utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte de prise de vidéo, parce que la prise de photo, on a pas mal fait le tour, là. Et ça, c'est une belle amélioration, effectivement.
Mais pour l'audio, ça peut être très chouette pour, entre autres, choisir ce que tu enlèves. Tu vas enlever le bruit de la foule, mais tu vas laisser la musique de fond.
On peut ajuster l'intensité de l'effaçage, si vous permettez
l'expression. Tu vas donc garder ta voix à l'avant-plan, mais enlever le bruit de voiture, mais garder le bruit des oiseaux. Je pense que ça va être à ce niveau-là que ça va être très, très chouette de voir ce que ça peut faire. J'ai hâte de le tester.
Il y a des nouveautés aussi encore toujours dans le logiciel parce que là, ce qu'on a présenté à New York, c'est qu'on a dit c'est un téléphone, mais c'est surtout l'intelligence artificielle dans vos mains. Donc là, on l'ajoute solide de ce côté-là. Il y a beaucoup d'éléments d'intelligence artificielle dans le téléphone. On dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont natives, qui ne se font plus nécessairement sur le cloud maintenant parce qu'on a la capacité de processeur pour le faire. Il y a une nouveauté et j'ai demandé, et on m'a dit, ils ont présenté l'assistant Google avec Bard parce qu'on veut pas faire disparaître l'assistant, puis on veut pas non plus que Bard soit laissé dans son coin, donc on veut sans le dire vraiment, je pense qu'on va finir par fusionner tout ça dans une seule offre de d'outils d'assistants numériques évolués. Là, on la combine, on dit, ben, vous allez pouvoir parler à l'assistant Google sur votre téléphone et il va aller chercher de l'information grâce à Bard pour automatiser des chaînes d'action. Pas nécessairement juste vous donner une réponse sur le pointage du match de soccer de la veille, mais vraiment aller plus loin dans cette... par exemple, vous proposer comment faire une recette ou comment booker plusieurs choses dans un voyage. Malheureusement, c'est pas si ça va arriver au Canada parce que Bard n'est pas offert au Canada. Donc, et ce qu'on m'a dit, c'est qu'on imagine que ça va être offert au moment où on va le lancer. Donc ça me laisse toujours songeur sur la... Je pense que la balle est dans le camp des gouvernements où il y a quelque chose qui va se tramer parce que c'est pas réglé encore cette histoire-là. Mais bref, on n'est pas encore rendu là. Cela dit, Bard est avec l'assistant ou sans l'assistant, peu importe, est déjà accessible dans 220 pays. Donc, on imagine qu'il va y avoir beaucoup de pression de ce côté-là. Il y a une fonction, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur la reconnaissance du langage naturel. On peut parler deux langues et Google peut aussi savoir qu'on parle deux langues et nous répondre en conséquence, donc en français et en anglais, par exemple, dans la même foulée. Et l'enregistreur, si vous avez un Pixel ou si vous n'avez pas un Pixel, c'est la raison pour laquelle vous pourriez vouloir un Pixel. L'enregistreur sur les téléphones Pixel enregistre, évidemment, la voix, va transcrire en temps réel, dans la langue de votre choix, le texte entendu et va même faire la ponctuation et le passage de paragraphe automatiquement. C'est fascinant, c'est fou, c'est le meilleur outil pour un journaliste. Et probablement, si j'étais un étudiant, je serais du même avis. Il est amélioré cette fois-ci justement pour tenir compte d'un paquet d'autres affaires et il est, parce que lui, il allait sur le cloud avant, il est maintenant sur l'appareil nativement. Donc, même si vous enregistrez quelque chose à l'endroit où il n'y a pas de connexion cellulaire, vous aurez accès à cette fonction-là. Beaucoup de nouveautés dans le clavier, dans la fonction téléphonique, tout ça. Puis, c'est des petits détails qu'il va falloir essayer, on va en reparler. Et surtout, c'est ça la grosse nouvelle, je pense, 7 ans garantie promis par Google, 7 ans de mise à jour du système gratuitement, sans effort, fonctionnel, sans perte de gradation de la performance notoire. Ça veut dire que si vous achetez un Pixel 8 aujourd'hui, il va être bon jusqu'en 2030. Oui. Et je sais pas si vous savez, mais en 2030, c'est genre, les autos vont voler, on fera pas l'Europe, et ça va être un autre monde complètement, mais on va encore avoir un Pixel 8 dans nos poches. Ouais. Je pense que c'est une promesse assez ambitieuse. J'ai hâte de voir en 2030, quand on fera une tasse de tech pour les vieux, parce qu'on va être vieux, si ça va être encore, si on va pouvoir dire, hey, avez-vous encore votre Pixel 8 dans votre main, parce que là, il était encore bon? Ou pas.
Non, mais je trouve ça bien parce que c'est un des points de vente qui fait que les téléphones Android avaient une mauvaise réputation et tout à fait légitime que les mises à jour, parfois les téléphones étaient abandonnés après un an, après 2 ans, tu avais une version d'Android et c'était tout. 7 ans, c'est beaucoup et ça va chercher dans les plates-bandes d'Apple qui ont environ 5-6 ans de mise à jour qui ne promettent pas, je crois.
Non, mais il reste rien, mais c'est 5 à 8 ans l'usage moyen d'un...
5 à 8 ans environ. Ouais. Fait qu'on est pas mal dans ces eaux-là, mais dans ce cas-ci de Google, c'est garanti. Le truc qui m'a fait tiquer en terminant avec le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, on est tombé dans le branding. On parle d'un écran Actua Display.
Sur le
Pro, et ça veut rien dire. C'est du branding. C'est comme un écran Retina. Ça ne veut rien dire, mesdames et messieurs. Ça veut juste dire qu'Apple trouve qu'il est correct. est sérieux, un écran Retina, c'est une résolution? Non. Il y a des écrans de toutes les résolutions. Est-ce que c'est une technologie de l'écran? Non. Il y a des écrans de plusieurs technologies qui s'appellent Retina. Est-ce que c'est un taux de rafraîchissement? Non. C'est vraiment...
Dans le cas de Google, le display actuel, c'est un rafraîchissement meilleur, là, c'est de 1 à 120 Hz selon le cas plutôt que 60 à 120. Mais c'est vrai que c'est un branding tout à fait.
C'est puis, un pur branding.
À un moment donné, ça veut plus dire grand chose, effectivement.
Et voilà.
Détail intéressant, si vous précommandez les Pixel 8, dans le cas du Pixel 8 tout court, on vous donne des Buds Pro, des Pixel Buds Pro gratuitement. C'est quand même le fun, des bons écouteurs. Et si vous achetez le Pixel 8 Pro, celui que je recommanderais, on vous donne une Pixel Watch 2 gratuitement.
Ben voyons.
Comme on faisait avec le Google Mini à une autre époque. C'est un beau cadeau,
ils sont
ça
fous
aussi. C'est 999 et 900 et 1349 pour les deux téléphones. C'est pas cher. Excusez-moi. C'est pas donné.
C'est pas donné, mais en même temps.
Mais c'est pas cher non plus dans le contexte où les téléphones à peu près concurrents coûtent tous pas mal plus cher que ça. Et ça a toujours été le positionnement de Google de dire, on veut comme offrir du presque haut de gamme, mais à prix plus intermédiaire. Et on est à peu près là. Donc, ça devrait être une belle offensive. J'ai hâte de voir à quel point ils vont en vendre, mais déjà, on sait que Google est peut-être un des trois plus gros vendeurs de téléphones après Samsung et Apple. ça a l'air fancy comme ça, mais ils ont tous à peu près 3% de part de marché rendu là. C'est pas une grosse affaire, mais ils essaient de pousser fort. Donc, peut-être qu'ils vont se positionner comme le troisième joueur à suivre, mais c'est un téléphone qu'on a hâte d'essayer, c'est certain, si jamais ils en ont de disponible. Qui est un gros si. Quand même. Et ça fait le tour de Google, l'événement Google de la semaine, Made by Google. C'est ça le nom de l'événement. C'est rendu le nom officiel à chaque année. On va prendre une très petite pause parce que j'ai cherché mon machin et on revient pour parler des gadgets de la semaine. Restez avec nous.
Cherche ton machin, Alain.
Attends-toi. Oui. À une tasse de thé.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech, segment où on parle de nos gadgets de la semaine. Je l'ai, ça fait quelques semaines que je l'ai et je suis très satisfait de cet appareil qui s'appelle le Move 2 de Sonos. Mm-hmm. Et je le dis très poliment, je suis plus que satisfait. En fait, je trouve que Sonos, depuis leur reboot, là, il y a peut-être 2 ans, oui, ont vraiment amélioré la qualité de leurs produits et c'est tout à leur honneur. Le Move 2, si pour vous le décrire, c'est une enceinte stéréo portative, c'est-à-dire que c'est comme un speaker Bluetooth, comme on dit en bon français, mais vraiment gros.
Mais Bluetooth et Wi-Fi,
mais
ça,
plus que Bluetooth, parce qu'effectivement, il est Wi-Fi, on le contrôle, on peut jumeler un téléphone par Bluetooth, on peut brancher une source auxiliaire par un fil 3,5 mm. Il y a une entrée USB-C. Et il y a aussi l'application Sonos qui permet de connecter les services musicaux connectés de son choix, les services musicaux de Spotify à Deezer, à je vous fous pas quel autre service que vous
pouvez dire. Cowboys,
TuneIn, les radios internet,
TuneIn Radio.
C'est la deuxième génération d'un appareil qui, Pascal, t'as les deux, toi, sont identiques visuellement, mais il y a une grosse amélioration.
Ceux qui n'ont.
Au niveau de la quincaillerie. Tu les lèves et ça fait un bon exercice. Si vous en avez deux, si vous en achetez deux, premièrement, si vous achetez deux Move 2, vous pouvez faire une paire stéréo, ce qui est déjà, ça améliore le son. Mais surtout, oui, vous pouvez aussi faire de l'exercice parce que c'est costaud. On parle d'un appareil qui fait, c'est 3 kilos. En fait, c'est 6,6 livres, qui est à peu près, je veux dire, 25 à 30 cm de haut, qui fait quand même un certain format. Là, c'est pas un appareil qui est petit. Oui. C'est pas un appareil qu'on met dans son sac de voyage pour aller en camping, mais c'est un appareil qu'on peut mettre sur la terrasse, dans la cour, à l'extérieur, qu'on peut trimballer avec soi pour écouter de la musique au parc quand on n'est pas loin de la maison, tout ça, parce que effectivement, il est portable, il est muni d'une batterie qui confère jusqu'à 14 heures de musique continue. Oui. Ça, c'est un gros pique-nique, 14 heures. Et si vous me permettez le gag, ce serait même un pique-nique électronique parce que le son est quand même assez puissant, remplit vraiment super bien une grande pièce là, de 25 par 25 sans problème. Donc, même dehors, on peut produire un son qu'on va bien entendre. Une particularité du Move 2, c'est qu'on a une stéréophonie malgré que c'est une seule enceinte. On a un son stéréo gauche-droite. On a séparé les deux voix. On va pas aller pas capoter avec ça, mais quand même, on a une séparation des canaux qui est mieux que rien du tout. Et il y a sur l'appareil, je serais tenté de dire 4 micros, mais je suis plus sûr. Il y a des micros, en tout cas, qui permettent de capter comment le son se propage et d'ajuster automatiquement les réglages sonores de l'appareil. C'est une fonction qui s'appelle True Play. Et là, elle est automatique. Avant, à une certaine époque, il fallait prendre son Sonos puis le promener dans la pièce comme ça, ou sur son téléphone, en fait. Mais bref, c'était compliqué pour rien. Là, ça se fait tout seul. Donc, ça assure que ça minimise les cas de distorsion, d'écho, peu importe. Et en tout cas, si vous avez de la distorsion avec cet appareil-là, appelez-moi parce que j'ai eu aucun problème. Le son, même dans le tapis, là, à volume maximal, ça sort très, très bien. Il y a un égalisateur. Si jamais vous le comparez avec, je vais dire, un HomePod chez Apple, il y a un égalisateur dans le Sonos qu'il n'y a pas dans le HomePod parce qu'avec Apple, ils sont un peu crinqués sur le contrôle de ces affaires-là. Ben, Sonos, il vous laisse un peu de marge et on l'entend, la différence. On peut régler les graves et les aigus. C'est pas un égalisateur à 14 patentes, là, c'est assez minimal, mais quand même, ça permet de, dans des pièces où il y a déjà beaucoup de résonance, ça permet de réduire la basse, des choses comme ça, donc c'est pratique. Il y a une commande vocale, en fait, qui est soit celle native de Sonos, qui est très limitée. On peut jumeler Alexa si vous avez un compte Amazon. On ne peut plus utiliser l'assistant Google, ce qui est une possibilité. Il y a quelques années, on a retiré ça du côté de Sonos. Je serais curieux de savoir pourquoi. Probablement que Amazon a dit, mon ami, sois le meilleur ami. Mais Alexa, évidemment, nécessite d'avoir un compte Amazon et c'est toute la question de si vous avez ce genre de questionnement-là à la maison de respect de la vie privée. Là, vous savez qu'Amazon en prend en collecte des données, ça n'a aucun bon sens, donc ça peut être une limite. Je vais vous dire ceci. Super appareil pour la musique, pour tout ce que vous pouvez consommer de contenu sonore. On peut, avec AirPlay 2, pousser aussi du son d'une télé, d'un Apple TV, d'un téléphone. On peut le faire aussi avec un téléphone Android de plein de façons. Mais il n'y a pas de micro. On ne peut pas faire un main libre. Ça aurait été un excellent appareil pour faire un appel conférence en main libre bon, en plus. Tu mets ça sur le milieu de la table et là, pouf. Il me semble que c'est une occasion ratée pour Sonos de vendre son appareil à des entreprises, des petites entreprises, tu sais, qui sont un peu, tu sais, des boîtes branchées, là, qui veulent être à la fois cool et moderne, ont de la petite musique qui joue tout le temps, puis là, pouf, sort le speaker, fait un appel conférence. C'est mon opinion. Ça, c'est un point où j'aurais été surpris, mais j'aurais été agréablement surpris que ce soit inclus, qu'on puisse faire des appels mêlés et que le son soit de bonne qualité parce que il est capable de faire du bon son. Bref, ça, c'est un petit peu une limite. Et aussi le prix, évidemment, une autre limite, $560 pour un appareil qui existe chez d'autres fabricants, dans d'autres marques, à peu près le même format, pour la moitié du prix facilement. Je pense entre autres à Ultimate Ears UE. Ils ont un appareil, et là, son nom m'échappe, parce que ça, leurs noms de produits sont bizarres, eux autres, mais il fait sensiblement la même chose, coûte pas mal moins cher. Et c'est un peu dommage, parce que quand on a un appareil comme celui-là qui est portable et qu'on l'écoute, évidemment, en situation, il vient avec une base magnétique en passant sur laquelle on le dépose et ça recharge. Donc, on n'a pas besoin de le brancher physiquement. Ça se dépose très bien quand on veut pas l'utiliser en version mobile. Et ça, c'est correct. Mais quand on veut l'utiliser ailleurs, quand on sort dehors, entre autres, on n'a pas besoin de speaker, d'un haut-parleur de très grande qualité et très grande fidélité. On veut quelque chose qui fait du son puissant. Juste assez, en fait, pas trop pour déranger les voisins puis tout ça, puis on peut y aller pour un produit qui coûte la moitié du prix et avoir le même genre de satisfaction, le même genre d'expérience, donc c'est un peu dommage de ce côté-là. En revanche, l'application Sonos, elle est bien. Elle permet de contrôler, de chercher dans sa bibliothèque musicale personnelle, dans les services connectés, tout ça, tout à la même place. Et évidemment, elle est... Bon, elle résiste aux éclaboussures, mais je la laisserai pas dehors toute la journée, tu vois.
Ah, et pourtant, elle est conçue pour ça. Hein? Elle est conçue pour être à la pluie. Si on l'oublie sur sa terrasse, elle devrait résister.
Mais au prix, je peux faire acheter des haut-parleurs de terrasse en forme de fausse roche.
Non, tu fais pas exprès, là. Tu fais pas exprès pour la laisser dehors, mais elle devrait résister au froid et à la pluie. Si tu la laisses sur ton balcon, c'est pas évidemment quelque chose que tu vas lancer dans ta piscine, mais ça devrait fonctionner. Il y en a des consoles portables. Moi, là-dessus, je suis un peu en désaccord avec toi, parce que je trouve que la différence de qualité sonore, il n'y a rien que je trouve plus horrible que d'être dans un endroit où quelqu'un fait claironner sa petite boîte de conserve qui sonne pas bien. Pour moi, c'est plus
agressant. Ah oui, mais sinon, mais je parle pas de petits haut-parleurs Bluetooth de poche. Ça, c'est effectivement
le mot qui donne vraiment un son agréable à écouter, une belle ambiance sonore. Moi, je m'en sers.
Une enceinte de ce format-là, à moitié du prix, ça existe, cela dit.
Tout à fait. Mais c'est pas connecté à ton réseau Sonos. Moi, ce que je fais, c'est que je le prends, je la sors sur mon balcon quand j'ai besoin de souper et je peux la rentrer et l'écouter dans ma cuisine sur sa base de recharge. Ce qui se demande, là, c'est la même base de recharge que le Move 1. Ah. Alors, si vous avez vraiment
on peut pas faire de stéréo, on peut faire du multipièce. Donc, si vous voulez,
on peut faire du multipièce. Donc, on peut diffuser
dans deux moves, ça se fait.
Ça se fait. C'est ça, j'ai essayé. On peut pas faire un combo stéréo avec le Move 1 et le Move 2. Il faut deux Move 2 ou deux Move 1. Peut-être un deal à faire, ceux qui vendent leur Move 1 pour se procurer le Move 2. Et ceux qui veulent une option plus compacte de son ordre, toujours compatible avec le Wi-Fi. Donc, on peut l'utiliser dans sa maison, connecté partout, synchronisé entre toutes ses pièces. C'est le Roam.
Ah oui, ben c'est ça, ben voilà.
Ben c'est ça, il est
que j'ai d'ailleurs dans mon sac de voyage. Tu vois, c'est ça la différence. Le Roam, c'est un petit haut-parleur Bluetooth qui est gros comme... Oh, une très grosse barre de chocolat.
Oui, une grosse barre de chocolat Toblerone.
Ouais,
la grosse de 750 grammes.
Mais c'est fait ça pour, justement, tu mets dans ton sac à l'école, au travail, tu le sors dans le parc et tu le quittes. Ouais. Le Move, il est mobile, mais il est mobile à très courte, de très court rayon. Donc, sur la terrasse, à l'extérieur, des choses comme ça, effectivement.
Et le
si vous avez Boombox au terrain de soccer pour les pratiques, des choses comme ça.
C'est ça. Le Roam est aussi compatible Wi-Fi. Faut jamais l'oublier. C'est ça, la beauté. C'est que ça se connecte à ton réseau sans fil. Et donc, t'as pas besoin de le connecter par Bluetooth. Tu peux écouter de la musique. Tu peux recevoir des appels, prendre des appels. La musique continue de jouer.
Effectivement.
Parce et que puisqu'on est dans la qualité sonore est très bonne.
Famille Sonos, on en a déjà parlé, mais les nouveaux Era 100 et Era 300, qui sont les enceintes connectées, mais branchées dans le mur, là, la maison de Sonos sont vraiment spectaculaires aussi. Ouais. Si vous avez une maison et vous voulez l'équiper, vous dites waouh, vous avez un petit budget là, considérez d'équiper de nombreuses pièces d'équipement Sonos. C'est pas une mauvaise idée parce que c'est des bons produits. On est dans une bonne passe en ce moment chez Sonos. Je dirais ça comme ça. Il y a eu des années où c'était peut-être moins spectaculaire, Mais là, en ce moment, ce qu'ils ont, les Era sont écœurants, je veux dire comme ça.
Oui.
Le Move
oui.
2 reprend bien aussi sans être, parce qu'évidemment, c'est une oui. enceinte unique, là.
Oui. Si vous avez quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose de portable et que vous allez vraiment l'utiliser sur votre terrasse, sur votre balcon, le Move 2 est peut-être une bonne option, mais si oui. vous voulez avoir une meilleure qualité sonore, quelque chose de fixe dans votre salon, le RA300, c'est le même prix, là, c'est pas mal le même prix pour les mm-hmm. deux. Le RA300 est vraiment le fun, puis vous pouvez vous acheter, si vous voulez, le petit Roam en bonus qui va compléter votre voilà. musique dans la maison.
Et ça fait le tour du Sonos Move 2. Toi, Pascal, tu mm-hmm. nous parles d'une... je sais même pas si on peut appeler ça une souris, parce que c'est plus du tout...
C'est un trackball. C'est ouais. le retour des trackballs. Kexington m'a envoyé ça, spécialiste en ergonomie. Ils ont envoyé plein de beaux trucs cette année. La trackball, c'était la mode à un moment donné. Puis moi, j'ai la Slim Blade Pro.
Oui, comment tu la trouves? Je veux savoir.
Je trouve ça assez cool. Tu sais, on essaie des gadgets en tant que chroniqueur techno. On le met sur le coin, on laisse ça un petit bout de temps, puis on retourne à notre bonne vieille souris, on retourne à notre bonne... Écoute, je suis pas retourné à autre chose.
Ben, moi, je veux dire ceci, et ça, pour moi, c'est un gage d'accessibilité. C'est ma blonde qui l'utilise et je la cherche là. Elle l'a avec elle en ce moment parce qu'elle l'utilise avec son ordinateur pour le travail. Et ça, pour moi, c'est un déclencheur. Ça veut dire que c'est un appareil qui s'utilise simplement et efficacement. Parce que oui, moi j'en ai un autre, j'ai un trackball différent, le Fusion, je sais pas quoi, là, j'ai pas oublié son nom. Parce qu'il y a comme 36 boutons programmables tout le kit. Mais je pense que la Slim Blade, c'est comme le niveau zéro de c'est tu l'utilises, oui. tu te casses pas la tête et ça fait la job.
Vraiment bien fait et c'est surprenant. C'est un pavé carré, donc c'est à peu près gros comme un livre de poche sur lequel il y a une boule comme une petite boule de billard.
Qui en plus s'enlève facilement.
Qui s'enlève facilement. Vraiment le fun. On peut la nettoyer si jamais il y a des trucs qui s'encrassent. Les boules ont tendance à ramasser oui. la poussière si on a les doigts sales et tout. On peut facilement enlever la boule. La souris, le trackball peut perdre sa boule et se défaire. On a 4 boutons facilement. Autour.
Je veux dire, ça, c'est donc, un élément sur magasiner pour un trackball. Tous les trackballs de qualité, en tout cas, en principe, tous devraient, mais c'est peut-être pas le cas, mais devraient pouvoir, tu pourrais enlever la boule pour nettoyer, parce que la poussière s'accumule assez rapidement dans les, oui. dans les trucs, là, sous la boule et dans les capteurs, effectivement.
Et donc, tu poses ça à côté de ton clavier, ça ne bouge pas, donc t'as pas besoin constamment de la chercher. Intuitivement, tu mets la main dessus, et avec tes doigts, tu peux faire défiler l'écran, dérouler l'écran, et ce qui est le fun, c'est que t'as pas de molette pour rouler, tu fais simplement tourner la boule, comme un globe terrestre, à l'horizontale. Si tu veux faire défiler une page web, par exemple, fait que ça, c'est bien mal fun, tu te déplaces en bougeant de gauche à droite, et quand tu veux, tu fais tourner la boule, pour faire défiler ta page web.
Ça demande une dextérité des deux doigts, là, qui est différente.
Oui, mais ça vient très, très vite et c'est beaucoup plus simple que quand tu y penses frotter la petite ouais. roulette sur ta, frotter la petite molette sur ta souris.
Et ça fait penser, souris symétrique, donc main gauche, main droite.
Main gauche, main droite, ambidextre, mm-hmm. tu peux la poser du côté que tu veux. Fait que le petit geste, au début, je pensais que c'était il y a une espèce d'anneau autour de la boule, je pensais que c'était ce qu'il fallait faire tourner. Non, c'est la boule elle-même qu'il faut faire tourner et ça permet de dérouler ces pages web avec beaucoup de précision. Puis ça, on dirait que ça fait faire de l'exercice aux doigts. C'est très, 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 très sympathique. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Les boutons sont programmables, donc on peut créer des macro-commandes. Si on appuie sur deux boutons en même temps, les boutons sont énormes là, sur chaque côté, donc on n'a pas besoin de chercher les petits côtés avec le pouce. C'est vraiment
une forme d'accessibilité là. Les gens qui aiment pas les trop petits boutons, les affaires là, c'est simple.
Exactement. Mm-hmm. Il y a un petit dongle pour la connecter rapidement à son ordinateur sans passer par le Bluetooth. Donc, on peut le passer du laptop à son ordinateur de bureau, d'un ordinateur à l'autre sans facilement. Mm-hmm. Écoute, on peut programmer les touches pour faire ce que on veut. Donc, on peut combiner, comme je disais, deux touches et par application, ça peut faire des choses différentes. Fait que selon l'application qui est ouverte, on peut choisir qu'appuyer sur le bouton en haut à gauche
ouais.
fait quelque chose et puis on peut contrôler sa musique avec un autre bouton. L'inconvénient, ça coûte presque 150$. Et pour quelqu'un qui a jamais payé plus que 20$ pour une souris, ça peut être choquant.
C'est un changement registre, ouais.
C'est un changement, mais je pense sincèrement que c'est comme une Formule 1 là, en termes de performance et de qualité.
Ben, il y a quelque chose sur au niveau de... Les gens qui fatiguent à tenir une souris vont moins fatiguer avec un trackball parce que c'est moins de mouvements, des petits mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. En fait, c'est-à-dire que dans les 350 millions d'années d'évolution humaine, ça fait pas très longtemps qu'on utilise une souris, fait que le corps humain est pas adapté à cette affaire plate, oui. bizarrement shapée sur le coin du bureau, donc un trackball est pas loin d'offrir une position plus naturelle pour le bras, la main.
Oui. Voilà. Et ceux qui ont sursauté en entendant le prix, le Slim Blade Pro autour de $150, je le vois en 140 sur Amazon en ce moment. Il y a plusieurs autres modèles de Kensington, de Trackball. Il y en a à partir de $50, il y en a des moins chers. Mm-hmm. On peut même acheter des boules de remplacement.
Ah bon, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'on pourrait comme personnaliser selon l'humeur et la journée et tout.
Ouais. La boule rouge fonctionne très, très bien. Puis évidemment, si vous magasinez un peu, il y a plein d'autres modèles. Mais trouvez, je pense, une bonne souris. Mm-hmm. Trouvez, je pense, un bon dispositif pour communiquer. Tu sais, le pavé tactile là, sur les laptops, ça marche, mais pour un usage professionnel...
Si vous avez une station de travail qui ne demande pas un laptop à tous les coups, un clavier externe et une souris, et je veux dire même des appareils, des périphériques ergonomiques vont vous sauver un paquet de soucis à long terme. Ça vaut la peine de mettre un petit peu plus d'argent dans ce temps-là.
C'est ça. Ça vaut la peine d'aller faire un tour dans une boutique d'électronique et puis de faire le tour, d'essayer quelques modèles.
Ou de nous essayer.
Puis nous jaser. As-tu essayé tel modèle? Ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Exact. Slim Blade Pro de
Kensington. Voilà le Move 2 de Sonos. Et on vous remercie nos partenaires Plan Hub, TELUS et Jura. Si vous voulez économiser sur votre forfait, là, jetez un coup d'œil sur Plan Hub. Ils font même ça pour les SIMBUD pour avoir des
forfaits. Oui, pour les
eSIM, en fait. Oui, ça m'a beaucoup servi téléphone. Quand je suis allé à New York. Mm-hmm. Pris une eSIM, très, très le fun. Je vais faire un petit billet là-dessus. Merci Plan Hub. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Claude Hébert, la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellet. Merci à vous au groupe Cogeco. PascalForgette.com, vous pouvez me trouver, me lire, m'écrire, me commenter. Je suis sur les réseaux sociaux. Anna McKenna, on peut te lire dans Le Devoir. On peut te lire dans...
Protégez-vous.
Protégez-vous.
Info bref.
Info bref.
Branchez-vous aussi, il faut que je le mentionne. D'ailleurs, si vous voulez de l'information pour des Pixel 8 plus en détail, j'ai des détails, j'ai tout écrit ça sur Branchez-vous. Vous pouvez aller voir ça, branchez-vous.com. C'est notre source d'information, effectivement. Écoute, merci Pascal. Merci à tous de nous avoir écouté, regardé... pas mal les deux sens qu'on monopolise, hein, parce que vous n'avez pas touché ni senti, puis c'est peut-être correct de même. Nous, on va prendre une pause, j'ai clairement besoin de sommeil, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde.
C'est 23.